Deutsche Welle. Magazine Santé. Une infection bénigne de la bouche qui se transforme en gangrène foudroyante et mortelle. La maladie du Noma, c'est son nom, fait 100 000 victimes par an dans le monde, principalement des enfants. Diagnostiquée à temps, il suffit pourtant d'un traitement simple pour en guérir. Au Burkina Faso, une ONG lutte contre cette maladie oubliée. Les enfants victimes, encore une fois, mais cette fois-ci dans un pays ultra développé, le Japon. Malgré les rapports rassurants du gouvernement, les enfants qui ont été exposés aux radiations de la centrale nucléaire de Fukushima ont un risque élevé de développer un cancer plus tard. Nous y reviendrons avec un expert indépendant. Voilà, chers auditeurs, les thèmes que nous aborderons dans cette édition. Le Noma est une maladie infectieuse qui se développe principalement dans la bouche et détruit atrocement le visage des malades. Il touche en particulier les enfants en bas âge, des enfants de moins de 6 ans. Appelé maladie de la pauvreté, ce mal est dû à un manque d'hygiène et à la malnutrition. Peu connue, cette maladie est souvent diagnostiquée trop tard. Dans les régions éloignées et rurales, peu de parents savent qu'il suffit d'un traitement antibiotique simple et peu coûteux pour guérir leurs enfants. Au Burkina Faso, ONG et ministère de la Santé combattent ce fléau par la sensibilisation des populations et la formation d'agents de santé. Visite sur place avec notre correspondant Yaya Boudani.
Nous sommes dans le centre de soins de la Fondation Aime nos enfants. C'est dans ce centre que sont pris en charge certains malades du Noma. Nongue Souari est un ancien pensionnaire du centre, mais aujourd'hui, il travaille pour le compte de la Fondation. Il nous raconte le début de sa maladie.
Ça a commencé avec des dents.
Ça a commencé par la dent, et après c'était un furoncle. Et c'est devenu grave. Quand je mangeais, la nourriture sortait de l'autre côté. Même quand je buvais de l'eau, ça ressortait par l'autre côté.
Ça sort dans l'autre côté.
Tout comme Soiré, Florence Lankwande a le sourire aujourd'hui. Vu son état, une partie de la bouche porte encore les signes de réparation. Certains habitants de son village n'attendaient que sa mort.
Ça a commencé petit, et ça devient grand. Et les gens disent qu'elle va mourir comme ça, elle ne peut pas avoir soin.
Florence et Nongue ont souffert du Noma. La maladie débute par une lésion bénigne de la bouche, mais qui peut détruire très rapidement les os du nez et de la mâchoire, les lèvres et la joue, selon le pédiatre Madi Belekam.
Les choses commencent par une atteinte au niveau gingival, donc au niveau des gencives. Alors, nous avons une douleur là-bas qui contamine en fait la partie de la joue. Alors, lorsque la joue est contaminée, alors il se forme une sorte de zone d'exclusion. Donc, il y a une limitation nette qui se produit sur la joue et cette zone alors qui se décompose et finit par chuter, laissant libre cette partie-là. Donc, les dents habituellement sont exposées au cours justement du développement de la maladie du Noma.
Cette maladie bucco-dentaire est due à des carences alimentaires. Selon les spécialistes, le Noma atteint le plus souvent les enfants souffrant de malnutrition. Docteur Kam.
Ce qui provoque le Noma, c'est la situation nutritionnelle. En fait, c'est la pauvreté. Donc, dans une situation de pauvreté extrême, nous avons une baisse importante de l'immunité des enfants. Donc, du fait que l'apport nutritionnel n'est pas suffisant. Et lorsqu'il y a une baisse importante de cette immunité, une petite infection banale avec n'importe quel petit germe au niveau gingival peut évoluer et nous donner le Noma.
Encore considéré comme un tabou, les cas de Noma ne sont pas toujours référés dans les centres de santé. Selon le ministère burkinabé de la Santé, 4 enfants sur 5 meurent avant d'avoir reçu un traitement médical, car les parents méconnaissent la maladie. Mao Savadogo, coordonnateur de la Fondation Aime nos enfants, qui prend en charge les cas de Noma.
C'est comme les cas de Noma, il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup travailler à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que c'est des maladies comme une autre maladie et que ça se soigne. Aujourd'hui, ils viennent avec des fentes labiales et se disent que ça, c'est le sort, on leur a jeté un mauvais sort. Mais quand on leur dit qu'il y en a chez les Chinois, il y en a chez les Français, il y en a partout dans le monde, les enfants naissent et quand on leur montre des exemples en photo, l'enfant avant, l'enfant après, ça rassure tout de suite.
L'enfant atteint du Noma meurt dans 70 à 90% des cas, selon le spécialiste. Celui qui survit a des séquelles importantes. Mutilation du visage, difficulté d'élocution et d'alimentation. Défiguré, il est rejeté par tous. Nongue Souari.
C'était très difficile.
Je ne mangeais pas avec les autres. J'avais des amis, mais ils refusaient de manger avec moi. Je ne partais plus au marché. Même quand je vais jouer au ballon, je reste à côté. Comme je suis malade, les autres me rejetaient.
Pour le pédiatre Madi Belekam, une bonne hygiène bucco-dentaire et une alimentation équilibrée permettent d'éviter le noma. Et surtout, le traitement de toute lésion sur la gencive.
Lorsqu'il y a une bonne hygiène bucco-dentaire, une bonne nutrition dans les familles, et en prenant en compte tout ce qui est comme mets locaux, parce que des fois on néglige tout ce qui est alimentation locale. Alors que non, l'alimentation locale qui est bien répartie dans le temps peut être suffisamment riche pour couvrir les besoins nutritionnels d'un enfant. Donc lorsque ces deux choses sont faites auprès de la population, on a déjà gagné. De l'autre côté, il faut encourager les agents de santé, lors de l'examen médical de tout enfant, de regarder dans la bouche. C'est dans ces occasions qu'on peut trouver des lésions débutantes et les traiter très tôt. Et quand on les traite très tôt, alors, on n'a pas ces questions de chute, en fait, de la peau.
Yaya Boudani à Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
Quels sont les effets réels des radiations nucléaires sur la santé ? Médecins, scientifiques et experts du nucléaire se sont penchés sur cette question lors d'un séminaire réuni à Vienne, en Autriche, par le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations nucléaires. Au centre des préoccupations, les conséquences sanitaires de la catastrophe de Fukushima au Japon. Il y a plus de 2 ans, on s'en souvient, l'accident nucléaire provoqué par un tsunami avait tué plus de 18 000 personnes. Les radiations continuent toutefois de polluer l'environnement et surtout de menacer la vie des populations locales, en particulier des enfants. Un rapport controversé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, paru en mars dernier, estimait en effet que les risques du cancer du sein ont augmenté de 6% chez les femmes de la préfecture de Fukushima exposées aux radiations au stade du nourrisson. Ils bondissent à 70% pour les cancers de la thyroïde. Un risque qui semble être minimisé par les autorités japonaises et la communauté internationale, c'est en tout cas le constat de Roland Desbordes, président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il explique tout d'abord au micro de Laure Valois pourquoi les radiations sont dangereuses.
Les atomes radioactifs émettent des radiations qui sont de très très haute énergie et qui ont de toute façon de tellement haute énergie qu'ils sont capables de provoquer beaucoup de dégâts dans le corps humain. Et c'est ça qui présente un risque, c'est d'endommager les cellules au passage de ces rayonnements. Suivant la nature des cellules, eh bien, soit ça va entraîner des cellules anormales, soit des morts cellulaires. Si les cellules sont anormales et que ce soit des cellules somatiques, ce qu'on appelle comme la peau, le foie, les reins, ça peut entraîner des cancers. Si c'est des cellules de reproduction, on sait que ça entraînera de manière potentielle des anomalies génétiques dans les générations à venir.
Pourquoi les enfants sont-ils particulièrement touchés ?
Alors ça, c'est connu depuis très longtemps. La même quantité de radiation va provoquer plus de dégâts chez un enfant. Pourquoi ? Parce que, ils ont des cellules en reproduction plus rapides que les adultes. Leur système est en plein développement. Or, c'est au moment de la division cellulaire que les cellules sont les plus fragiles. Ça, c'est la première chose. C'est que si un enfant est irradié, il va pouvoir exprimer les dégâts pendant plus longtemps parce que son espérance de vie fait que les dégâts provoqués dans l'organisme vont pouvoir s'exprimer sur 30 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pour ça qu'il est clair que dans un contexte de pollution radioactive, les personnes à protéger en premier, ce sont les enfants. Il faut leur attribuer des normes de dose, donc contamination des aliments, de dose d'irradiation externe, etc., qui soient inférieures à celles des adultes.
Alors, en mars dernier, cela fait 2 ans que la catastrophe de Fukushima a eu lieu. 2 ans après, est-ce que vous diriez que, justement, les mesures de protection, de prévention, en tout cas la réaction des autorités japonaises, ont été efficaces ?
Non, les autorités japonaises n'ont pas été à la hauteur, je dirais, de l'événement. Ça a été prouvé, il y a eu des rapports. Ils ont évacué très tardivement et trop limitée, une zone beaucoup trop limitée. La contamination, elle ne se répartit pas en cercle, elle se répartit suivant les vents. Or, à certains endroits, les dépôts ont été très importants, jusqu'à 80 km de la centrale. Donc c'est clair qu'en en se limitant l'évacuation à 10 voire 20 km, on est très en dessous. Et enfin, je dirais, c'est qu'on n'a pas protégé les populations en leur distribuant de l'iode stable, par exemple, qui aurait permis de protéger au moins la thyroïde des enfants, voire des adultes, mais surtout des enfants, contre l'iode radioactif, qui était le radioélément le plus présent au départ, en quantité, dans l'atmosphère, qu'on a retrouvé dans les légumes, donc dans le lait, dans l'air, et qui fait que les enfants n'ont pas été protégés correctement.
Alors pourtant, en février dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié un premier rapport mondial sur les risques pour la santé donc des populations touchées par l'accident de Fukushima. Alors on peut dire que c'est un rapport plutôt optimiste, donc je cite une phrase de ce rapport. En dehors des zones géographiques les plus touchées par les rayonnements, les risques prévus restent faibles et aucune augmentation observable des cancers n'est anticipée. Quel est votre avis ?
Alors, il est évident que 2 ans après, il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour pouvoir faire un bilan sanitaire. Le bilan environnemental, c'est-à-dire où a été déposée la radioactivité, on sait à peu près aujourd'hui. Par contre, pour savoir combien les gens ont reçu de doses, c'est clair qu'il est beaucoup, beaucoup trop tôt.
J'aimerais savoir si vous avez des données sur notamment le retour de certaines populations. J'ai lu à plusieurs reprises qu'il y a une sorte de no man's land à 15 km autour, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Comment ça se passe là-bas exactement ?
Non, ce n'est pas du tout no man's land. Et actuellement, il y a tout un travail de chantage des autorités pour tenter ou essayer de faire de nier la radioactivité dans cette zone-là, d'inciter les populations à revenir, à réinvestir cette zone, et il y a des réticences de la population.
Roland Desbordes, président de la CRIRAD, la Commission française de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, au micro de Laure Vallois. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle notre adresse, français@dw.de. Merci de nous rester fidèles, où que vous soyez dans le monde, et surtout, portez-vous bien.